France Inter.
C'est une fraude fiscale à plusieurs dizaines de milliards d'euros avec un drôle de nom, les Koum-Koum.
Oui, j'ai fait des Koum-Koum. On savait que c'était borderline. Ça nous semblait quand même pas fair play vis-à-vis du fisc.
Des montages financiers très pratiqués par les banques, les traders et les courtiers et qui permettent d'échapper à l'impôt. En 2018, le scandale fait la une de l'actualité.
L'essentiel de ce jeudi commence avec un braquage dans les grandes largeurs.
Le casse du siècle, révélation sur une fraude fiscale gigantesque. Plus de 55 milliards d'euros ont échappé aux États européens grâce à des manœuvres de banquiers, un système complexe.
Un système aujourd'hui dans le viseur de la justice, le parquet national financier enquête. Le Crédit Agricole a d'ores et déjà accepté de régler une amende de 88 millions d'euros pour blanchiment de fraude fiscale. Mais pour la Fédération bancaire française, pas d'inquiétude.
Notre fédération dit et répète qu'il n'y a pas de fraude systémique liée à ces opérations.
Et pourtant, beaucoup d'autres banques françaises sont concernées. 5 sont sous le coup d'une enquête pénale. Et on vous le révèle aujourd'hui, une dizaine de banques sont visées par un redressement fiscal. Nous avons retrouvé des témoins de l'ombre et dévoilons des documents accablants.
Ce document, il montre que, effectivement, les acteurs qui sont impliqués dans cette fraude savent très bien ce qu'ils font.
Et à l'heure où les pouvoirs publics appellent à des économies budgétaires, vous allez découvrir comment un sénateur LR mène la bataille contre les banques dans cette affaire.
Comment d'un côté demander 40 milliards d'euros d'efforts aux citoyens français et laisser de l'autre perdurer la fraude opérée par les banques.
Alors, à qui profitent ces milliards d'euros des Koum-Koum qui échappent au fisc? Pour Révélation, Anne-Laure Barral a mené l'enquête.
Révélation, le magazine de la cellule Investigation de Radio France, Benoît Colomba.
Et pour bien comprendre, avant de plonger dans les mécanos financiers de ces milliards qui échappent à l'impôt, on vous retrouve, Anne-Laure Barral, au cœur de Paris.
Alors, on est place de la Bourse, dans le 2e arrondissement de Paris, devant le Palais Brongniart, inauguré en 1826, et qui va abriter toutes les activités financières de la place de Paris, qui va permettre la construction de chemins de fer, de toute la sidérurgie. Aujourd'hui, c'est un lieu d'événementiel, essentiellement. Ça abrite l'association Finance Innovation et Finance Durable. Et puis, on va rentrer à l'intérieur, voir ce qui s'y passe aujourd'hui.
Bonjour, monsieur. C'est là l'entrée. Vous voulez voir les sacs?
Là, on est exactement dans le lieu qu'on appelle la corbeille. En fait, c'est ici que les traders, les courtiers s'invectivaient, s'envoyaient des papiers à la figure pour vendre ou acheter leurs actions. À partir de 1987, les activités de transaction vont se déplacer vers les salles de marché des banques, dans les locaux des banques, et plus ici, au cœur de Paris. Et la bourse va fermer en 1998. Aujourd'hui, tout se fait par informatique, par message, par mail. Et c'est la société Euronext, l'héritière de la Société des Bourses parisiennes, qui gère tout ça maintenant par informatique et ses serveurs sont en Italie.
Donc on le comprend avec cette séquence, la bourse a vécu un grand bouleversement à la fin des années 90. L'informatisation va faire exploser les transactions financières. Et c'est justement à ce moment-là, Anne-Laure Barral, que cette technique dite des Koum-Koum apparaît. Alors de quoi s'agit-il exactement?
Eh bien c'est une série de transactions qui permet à un actionnaire étranger d'entreprise française d'éviter de payer l'impôt sur les dividendes et à la banque d'empocher une confortable commission. Écoutez les explications d'Asie. Aziza Laguessir, professeur de contrôle de gestion des marchés financiers à l'EDEC de Lille.
Cette personne qui vit à l'étranger, si elle décide de ne pas payer la taxe sur les dividendes, elle a la possibilité de vendre ses actions ou de les prêter. Elle ne peut pas le faire avec n'importe qui, il faut les prêter à des personnes ou des institutionnels qui ne sont pas taxés, par exemple les banques.
Donc si je comprends bien, ça ressemble un peu à un jeu de bonneteau. Je prête mes actions à une banque au moment de payer cette taxe sur les dividendes et je les récupère ensuite.
Oui, et ça s'appelle cum cum, qui veut dire en latin avec, mais c'est plutôt pour dire gagnant-gagnant, hein, pour l'actionnaire et pour la banque.
Bon, mais si je prête mes actions ou si j'en emprunte sur les marchés, est-ce que ça veut dire que je suis forcément un fraudeur ?
Bien sûr que non, Benoît. Prêter, emprunter, vendre des titres financiers qu'on n'a pas encore achetés, c'est la base du marché pour que l'argent circule, pour qu'il soit liquide, comme on dit dans le monde de la finance. Tout dépend de l'intention de l'investisseur, comme l'explique encore Aziza Laguessir.
Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux vendre mon action avant de toucher les dividendes, donc je peux peut-être en tirer un petit peu plus d'argent. Je peux vendre l'action après avoir touché les dividendes, donc je vends mon action en ayant une petite rémunération. Et puis s'il y a une fiscalité sur le dividende, je peux peut-être prendre cette décision en fonction de la fiscalité. Ce qui est moins clair, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire pour ça, et uniquement pour ça, et de récupérer une partie des dividendes ?
Donc en fait, il y a une zone grise dans l'utilisation de cette technique qu'on appelle l'emprunt de titres.
Alors certains banquiers vont expliquer qu'il s'agit d'optimisation fiscale, voire d'optimisation agressive. Mais pour Florence de Boissy, professeure de droit fiscal à l'Université de Bordeaux, si on prête ses actions uniquement pour éviter le fisc, on rentre clairement dans l'illégalité.
Ça n'est absolument pas une simple technique d'optimisation fiscale, c'est une fraude au texte qui prévoit une retenue à la source. Parce que transférer des actions uniquement pour échapper au paiement de la retenue à la source, ça s'appelle un abus de droit, ça s'appelle une pratique abusive. C'est pour moi l'archétype de la pratique abusive. Donc il faut faire attention à ces éléments de langage qui s'imposent un peu dans l'opinion publique, optimisation. D'un point de vue technique de professeur d'université, moi je considère qu'il s'agit d'une pratique abusive.
Mais est-ce qu'il y a des preuves de cette pratique abusive, des preuves que l'actionnaire et la banque font ça pour clairement éviter l'impôt ?
Eh bien, nous avons trouvé de nombreux courtiers, traders, gestionnaires de fonds pour nous dire en off qu'évidemment, ils font régulièrement des transactions uniquement pour des raisons fiscales, comme cet ex-salarié d'un grand établissement bancaire français. Nous avons transformé sa voix pour protéger son identité.
J'ai fait des koum-koum de façon très classique et c'était une pratique qui était connue de tous les investisseurs institutionnels. C'était, on savait que c'était borderline, que c'était une pratique plutôt d'optimisation et personnellement, j'ai jamais rien caché et même dans mon service, on ne cachait pas. En revanche, on avait conscience qu'en traitant des montants aussi importants, et c'est là où je dis que c'est borderline, c'est que ça nous semblait quand même pas fair play vis-à-vis du fisc.
Sauf qu'évidemment, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas vraiment le message affiché publiquement par les banques.
Oui, elles mettent en avant beaucoup d'autres raisons, comme l'explique Frédéric Douet, professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen et également avocat.
Il y a ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Ce qui ne se dit pas, c'est qu'effectivement, en règle générale, le but recherché, c'est bien évidemment l'économie fiscale réalisée. Ce qui se dit, bien évidemment, c'est que lorsque vous réalisez une opération qui potentiellement est critiquable, vous allez dire oui, effectivement, mais ça n'est pas dans un but exclusivement ou principalement fiscal parce que j'ai tout un tas de raisons derrière d'ordre économique pour expliquer le pourquoi du comment. Ça peut être, par exemple, si je suis une société holding, d'aider l'une de mes filiales en difficulté. Ça peut être d'aider un partenaire en difficulté, ce genre de choses.
On aide les autres, pas forcément soi.
Les fiscalistes sont des grands altruistes, c'est bien connu.
On entend l'ironie dans sa voix et il y a un point très précis, Anne-Laure, qui permet de penser qu'on a affaire à une fraude. C'est le moment où ces transactions ont lieu.
Oui, parce que les entreprises versent souvent leurs dividendes à leurs actionnaires une fois par an et toujours à la même période, entre avril et juin. Par exemple, L'Oréal, c'était le 7 mai cette année. On appelle ça la saison des dividendes. Et juste avant le versement de ces dividendes, eh bien, on voit sur les courbes des marchés que les titres de l'entreprise connaissent des pics de transactions, comme l'a constaté Floris Zoutman, professeur à l'école norvégienne d'économie de Bergen, qui a mesuré ces signaux.
C'est un comportement très étrange. Cela ne se produit à aucune autre date de l'année. On appelle cela le complot du battement de cœur parce que ça ressemble un peu à un électrocardiogramme, tous ces pics de transactions si réguliers. Cela se produit à chaque fois qu'une société verse des dividendes.
Et ces anomalies statistiques, elles vont d'ailleurs mettre les inspecteurs du fisc de plusieurs pays européens sur la piste de ce scandale.
Un scandale, on le disait tout à l'heure, qui éclate en France en 2018 grâce aux révélations de nos confrères du Monde.
Oui, comme Maxime Vaudano qui a participé au consortium de 16 médias européens emmenés par des journalistes du site d'information Corrective sur ce sujet des coumcoums.
On est contacté par des collègues allemands avec qui on a déjà travaillé sur d'autres projets qui nous parlent de cette histoire de coumcoum. Enfin, on s'aperçoit rapidement que c'est déjà un scandale depuis plusieurs années en Allemagne. Donc on s'appuie sur les documents transmis par les collègues. Donc c'est des documents hyper compliqués sur des marchés boursiers en allemand. On n'y comprend vraiment pas grand-chose au départ, pour être honnête. Et petit à petit, on arrive à trouver des gens, des sources qui permettent de nous éclairer un petit peu sur comment ça fonctionne et qui nous font découvrir que en fait, c'est un problème aussi pour la France et que c'est un problème massif.
Mais massif parce que là, on l'a bien compris, il est question de milliards d'euros qui échappent à l'impôt.
Oui, on parle alors de casse du siècle avec une estimation à 33 milliards d'euros de pertes fiscales pour la France et 140 milliards pour l'ensemble de l'Europe. Un calcul réalisé par des chercheurs en économie de l'université de Mannheim en Allemagne, dont fait partie Christoph Spengel.
J'ai simplement pris le montant total des dividendes des actions cotées à la bourse allemande. Je l'ai multiplié par la cote-part des actionnaires non résidents et leur taux d'imposition. Je me suis dit, bon, ça serait l'ensemble du préjudice pour le fisc si tout le monde l'avait fait. Alors, j'ai été plus prudent en me disant que peut-être seulement la moitié l'avait fait pour éviter le fisc. Le ministère des Finances n'a pas remis en cause mes chiffres. Il faut dire qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait.
Et si Christoph Spengel est transparent sur sa méthode, les banques, elles, contestent ces chiffres. Elles mettent en avant un calcul de l'autorité des marchés financiers, avec une perte fiscale plutôt autour de 200 millions d'euros par an. Un calcul que l'AMF estime elle-même très approximatif et qu'elle n'a pas souhaité nous détailler.
Et cette fraude, Anne-Laure, elle dure depuis des décennies.
Oui, dès le début des années 2000, un lanceur d'alerte de la banque Fortis à Amsterdam s'était fait renvoyer pour avoir dénoncé des pratiques d'échange d'actions entre banques dans un but encore plus frauduleux, c'est ce qu'on appelle le CumEx, comme le détaille Eric Smit, rédacteur en chef du média hollandais Follow the Money.
J'étais en contact en 2006 avec ce lanceur d'alerte qui m'a expliqué les transactions illégales dans lesquelles cette banque hollandaise était impliquée. Il avait des preuves très claires des différents arbitrages de dividendes que faisait la banque et de l'énorme paquet d'argent que ça lui rapportait. Je n'en revenais pas. Ce qui est dingue, c'est qu'avec le CumEx, vous pouvez aussi réclamer au fisc de vous rembourser deux fois une taxe que vous n'avez même pas payée. Alors oui, c'est un montage compliqué, mais c'est quand même simple de comprendre qu'il s'agit d'une fraude. Même un enfant peut le comprendre.
Ah oui, donc là, avec cette technique, non pas du CumCum, mais du CumEx, non seulement on échappe à la taxe sur les dividendes, mais en plus, on se fait rembourser une taxe qu'on n'a pas payée.
C'est ça. Alors, plusieurs pays vont tout de même réagir, hein, à commencer par les États-Unis, qui vont mettre en place une législation très stricte contre l'arbitrage de dividendes dès 2008. Un peu plus tard, ce sera au tour du Danemark, mais aussi de l'Allemagne, grâce aux alertes d'une contrôleuse fiscale, comme l'explique Maxime Vaudano, du journal Le Monde.
Il y a un personnage dont on ne connaît pas l'identité, mais qui est très importante dans cette histoire. C'est une inspectrice du fisc, qui était dans un bureau du fisc à Bonn, en Allemagne, et qui a été la première à tiquer sur des demandes de remboursement qu'elle recevait. Et elle s'apercevait que les mêmes personnes demandaient 50 millions, 60 millions d'euros de remboursement de façon très régulière. Elle a un petit peu regardé et s'est aperçue que quelque chose n'allait pas. Et c'est comme ça que le CumEx a été découvert. Ça a permis de s'apercevoir qu'il y avait un gros trou dans la raquette dans la façon dont le fisc allemand fonctionnait, qui permettait aux gens de se faire rembourser plusieurs fois le même impôt.
Et cette fine inspectrice des impôts va aussi permettre aux policiers allemands d'arrêter celui qui s'est présenté comme un des cerveaux de ces montages frauduleux, l'avocat fiscaliste Hanno Berger. Il a été condamné l'an dernier à 16 ans de prison, comme l'explique ce reportage de la télé locale de la région de Hesse en Allemagne.
Hanno Berger est l'un des plus gros poissons dans cette affaire. Ancien fonctionnaire des finances à Francfort, il a été responsable pendant 12 ans du contrôle fiscal des banques. En tant que directeur général, il était même devenu le plus haut contrôleur fiscal bancaire de SE, jusqu'à ce qu'il change de camp et se mette à travailler pour de grands cabinets d'avocats. Il a alors déclaré à ses collaborateurs: Ceux qui ont du mal à accepter que l'on construise moins de crèches en Allemagne à cause de notre business n'ont pas leur place ici.
Un charmant personnage, ce Hanoberger. Donc si je comprends bien, en Allemagne, c'est plus grave encore avec ce système de Cum-Ex, parce que le fisc a sorti de l'argent de ses caisses pour rembourser des actionnaires, et en France, on a échappé à ça ?
Alors c'est effectivement ce que disent les banques, mais jusqu'en 2005, elles avaient quand même droit à un avoir fiscal quand elles détenaient des titres d'entreprise française, c'est-à-dire un chèque du fisc. Écoutez ce que m'a expliqué cette ancienne salariée d'une grande banque de la place parisienne. Nous avons transformé sa voix pour protéger son identité.
On avait un certain nombre de clients qui nous prêtaient des titres, d'autres banques étrangères, suisses, anglaises, des non-résidents, parce qu'ils n'avaient pas le droit à l'avoir fiscal. Et donc, nous, en tant que banque française, on avait le droit à l'avoir fiscal. Donc, on récupérait les titres, et une fois que du coup on récupérait le dividende, on pouvait leur rendre les titres avec le dividende, et puis on les rémunérait aussi, donc une quote-part de l'avoir fiscal. Alors c'était moitié-moitié de l'avoir fiscal. C'était des sommes qui étaient assez importantes. Il faut imaginer que les clients, c'était pas des simples particuliers qui détenaient 10 titres, mais plutôt des investisseurs institutionnels qui avaient quand même des grosses masses de titres. Donc ça se comptait plutôt en millions.
Donc, avant que l'État ne supprime l'avoir fiscal en 2005, des millions d'euros ont été distribués à des investisseurs étrangers qui, normalement, n'y avaient pas droit, puisque cette aide, elle était réservée aux Français qui soutenaient leurs entreprises.
Et est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur cette fraude à l'avoir fiscal qui ressemble dans son principe beaucoup au Cum-Ex ?
Eh bien non, parce que les enquêtes administratives et pénales en France ne regardent pas ce qui s'est passé avant 2013.
Révélation. Benoît Colomba sur France Inter.
Donc en France, ce scandale des Cum-Cum éclate publiquement en 2018 grâce à un consortium de journalistes. Et à partir de ce moment-là, Anne-Laure Barral, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, au lendemain de ces révélations, le député socialiste Boris Vallaud et le collectif baptisé Citoyens en bande organisée vont porter plainte. Fin 2021, le parquet national financier ouvre alors 5 enquêtes pour soupçons de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et en mars 2023, il va même faire des perquisitions très remarquée avec ses homologues allemands dans les locaux parisiens de 5 grandes banques, Société Générale, HSBC, BNP Paribas, sa filiale Exane et Natixis.
Mais il y a une banque qui va éviter ces perquisitions parce qu'elle a choisi une autre stratégie, Anne-Laure, vous nous l'avez révélé le mois dernier, une banque qui a finalement reconnu les faits et négocié une amende de 88 millions d'euros avec le parquet national financier.
Oui, c'est le groupe Crédit Agricole qui a signé une convention judiciaire d'intérêt public, une sorte de transaction avec l'État pour mettre fin aux poursuites contre la banque. À l'audience, le 8 septembre dernier, la procureure Claire Lemanneur, qui est également une ex-tradeuse, nous a fait plonger dans les coulisses des salles de marché des banques. Elle a aussi expliqué que CACIB, la filiale du Crédit Agricole mise en cause, n'était pas le plus gros acteur du marché et que l'enquête n'avait pas montré de véritable promotion de cette pratique au sein de la banque, comme l'a aussi relevé maître Caroline Boyer, avocate du collectif des citoyens en bande organisée, également présente à l'audience.
C'est vrai que ce qu'a indiqué la procureure de la République, c'est qu'ils n'avaient pas retrouvé la preuve qu'il y avait eu chez CACIB une véritable volonté de faire la publicité auprès de ses clients de ces mécanismes d'arbitrage de dividendes. S'il y a des banques qui ont mis en œuvre ces pratiques et qui ont mis en œuvre du démarchage et qui ont fait de la publicité pour favoriser, faciliter en tout cas la mise en œuvre de ces pratiques, elles seront davantage sanctionnées et qu'en tout cas, ce critère-là a un intérêt pour le parquet national financier, a un intérêt certain.
Donc ce qu'on comprend, c'est que le fait que le Crédit Agricole n'ait pas fait la promotion de ce type de pratique frauduleuse a pu jouer en sa faveur dans la négociation d'une amende avec le parquet national financier. Mais est-ce que ça veut dire que d'autres banques françaises, elles, n'ont pas eu le même comportement ?
En effet, selon nos informations, Natixis possède même un catalogue de produits de marché financier, un peu comme un catalogue IKEA, mais à destination des investisseurs professionnels. Il date de 2012 et détaille par écrit à ses clients non-résidents, comment éviter par exemple de payer une taxe de 15% au fisc français sur les dividendes des titres de l'entreprise Total. C'est Eric Smith du média hollandais Follow the Money qui l'a trouvé l'an dernier.
Ce qui m'a frappé quand j'ai récupéré cette brochure, enfin ce catalogue, c'est qu'il représente un parfait exemple de la façon dont les banques présentaient ce type de transaction qui aide leurs clients à gagner de l'argent et elles avec, bien sûr. La manière dont elles les présentent dans ce catalogue est frappante car elles utilisent plusieurs termes tels que anonymat préservé, un argument classique utilisé par la plupart des banques pour dire « nous ne savons rien, il s'agit d'une transaction anonyme et nous ne connaissons pas la contrepartie. » Ce qui n'est pas le cas. Ces transactions sont prévues à l'avance.
Oui, donc là, avec ce catalogue, on a vraiment un élément matériel qui prouve que certaines banques proposent ce type de service à leurs clients.
Oui, et c'est évidemment très gênant pour Natixis, comme me l'a confirmé l'ancien trader Anis Lajnef après avoir lu ce catalogue.
Ce qui gêne dans ce catalogue, c'est la façon dont le document explique, mais vraiment noir sur blanc, comment on va se partager le gâteau fiscal. Et ça, ça démontre soit que c'est une erreur de communication manifeste, c'est-à-dire que ces gens ont cru que ce catalogue allait rester en interne et avec les clients dans un petit entre-soi financier et que jamais il allait sortir de la banque. Et il y a une autre raison, et c'est encore pire, quoi. C'est juste le signe d'une banalisation, c'est-à-dire que les banques ont vraiment ce sentiment d'impunité et qu'ils peuvent écrire noir sur blanc tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai trouvé ce document hallucinant.
Et que répond Natixis au sujet de ce fameux catalogue ?
Eh bien, la banque n'a pas répondu à nos sollicitations.
Et vous avez trouvé d'autres documents encore plus récents, Anne-Laure, et qui posent également question.
Oui, comme cette note de fiscalité de BNP Paribas de 2021 qui explique les options avec lesquelles les actionnaires étrangers peuvent être encore exonérés de taxes sur les dividendes. Nous en avons fait lire un extrait.
À compter du 1er janvier 2021, les dividendes versés à un actionnaire non résident sont soumis à une retenue à la source au taux de 26,5%. Toutefois, ces taux peuvent être minorés, voire supprimés, par l'application éventuelle de la convention fiscale internationale conclue entre la France et l'État de résidence du bénéficiaire. Par ailleurs, la législation prévoit également des taux réduits ou des exonérations pour certains organismes de placement collectif étrangers et certains organismes sans but lucratif.
Alors, cette note, Benoît, n'est peut-être pas aussi explicite que le catalogue de Natixis, mais elle est très utile pour des gestionnaires de patrimoine financier qui cherchent les bons placements pour leurs clients en jouant sur les zones grises de la loi. Voilà ce que nous a expliqué l'un de ces gestionnaires. Il a préféré ne pas divulguer publiquement son identité. Nous avons donc fait lire ses propos.
Quand il y a des conventions fiscales avantageuses pour nos clients, comme entre Dubaï et la France, c'est sûr qu'on joue là-dessus. On joue avec la loi pour toujours trouver les mécanismes qui permettent d'éviter de payer trop de taxes. Même si aujourd'hui, c'est plus difficile, parce que plein de pays font tout pour communiquer entre eux les informations pour retrouver ceux qui leur doivent des impôts.
Ce qu'on entend, c'est ce qu'on pourrait considérer comme une forme d'incitation, finalement, à contourner la loi à travers ces conventions fiscales. Et que répond la BNP, qui a donc proposé ce type de note de fiscalité à ses clients ?
Alors rien, ni sur le fait que nous avons trouvé plus d'une dizaine de profils de collaborateurs expliquant faire de l'arbitrage de dividendes dans différentes banques citées. Nous avons aussi lu des discussions écrites entre traders et courtiers visant à se mettre d'accord en amont du versement de dividendes avec un langage très codé, alors que normalement, un courtier ne doit pas divulguer l'identité de son client quand il contacte une banque pour qu'elle achète ou emprunte ses titres. Un argument qui fait, là encore, sourire l'ancien trader Anis Lajnef.
Alors, il faut comprendre, dans une banque, tout est enregistré, que ce soit les communications écrites ou les communications par téléphone oral. Là, on fait très attention à ce qui est dit. Quand il y a un intermédiaire, ce qu'on appelle le broker, le courtier, normalement, l'anonymat est de mise et il peut lâcher des indices. Et ces indices, ça peut être la taille, des surnoms des banques. Je me rappelle, dans les années 2010, pour appeler JP Morgan, on pouvait entendre Jean-Pierre, par exemple. Ou on pouvait dire le nom de résidence de la banque, et c'est suffisant, par exemple, dans un arbitrage de dividendes. Mais depuis, les choses se font plus discrètement, via des applications mobiles comme Telegram, Signal, voire même WhatsApp.
Des noms de code pour parler discrètement des banques, ça fait un peu film d'espionnage. Et du côté de la Fédération bancaire française, qu'est-ce qu'on dit de tout ça?
Eh bien, elle n'a pas souhaité répondre à notre micro, tout comme les autres banques concernées par cette affaire. Mais le 12 septembre dernier, le nouveau président de la Fédération, Daniel Ball, qui dirige par ailleurs le Crédit Mutuel, était l'invité de l'émission « N'arrête pas l'écho » sur France Inter. Et Alexandra Ben Saïd l'a interrogé sur le scandale des Koum-Koum.
La Fédération bancaire française est intervenue dans ce dossier, notamment en relation avec le ministère de l'économie et des finances, avec un seul objectif, c'est que le cadre réglementaire soit parfaitement clair dans le respect des décisions prises par le Parlement et de ce qui est fait par l'exécutif.
Est-ce que si je vous dis je n'entends pas, je vais vous laisser continuer, mais je n'entends pas de réponse. C'est une fraude ou pas une fraude ?
Je vais vous répondre que la Fédération bancaire française a été très claire dans son audition avec au Parlement. Qu'est-ce qu'elle a rappelé ? Elle a rappelé que s'il y avait infraction, évidemment, cette infraction devait être sanctionnée et elle doit être sanctionnée sous l'égide de qui ? Sous l'égide de la justice, évidemment.
Donc, si on comprend bien, officiellement, la Fédération bancaire française s'en remet à l'appréciation du travail de la justice. Mais ce qu'il faut dire aussi, Anne-Laure Barral, c'est que, en plus de l'enquête pénale du parquet national financier, il y a aussi d'autres enquêtes, dont on parle peut-être un peu moins, des enquêtes de l'administration fiscale.
Oui, et selon nos informations, ces enquêtes fiscales concernent beaucoup plus de banques qu'on ne le pensait. Elles sont 13 aujourd'hui à faire l'objet d'un contrôle de la part de l'administration. Souvenez-vous, en Allemagne, c'était d'abord une inspectrice du fisc qui avait repéré ces montages financiers. En France, c'est pareil. Juste avant les révélations dans la presse, les services fiscaux avaient lancé, eux aussi, leurs propres investigations, comme l'explique Sabine Portela, secrétaire nationale du syndicat solidaire des finances publiques.
Dès 2017, les contrôles fiscaux ont été engagés sur des établissements bancaires et les vérificateurs avaient commencé à regarder très sérieusement ces pratiques et regarder comment on pouvait déjà voir si on était sur des schémas de fraude ou si c'était autorisé par la loi et avaient commencé à travailler pour les dénoncer et taxer les pratiques illégales.
Et est-ce qu'on a une idée du montant de ces redressements fiscaux ?
Alors oui, le fisc a notifié pour 4,5 milliards d'euros de redressement fiscal aux banques sur les Koum-Koum. Mais combien d'argent a-t-il vraiment récupéré aujourd'hui ? Est difficile à dire. Pour l'instant, seul le Crédit Agricole a accepté de signer un accord général avec le fisc et de payer 46 millions d'euros, en plus des 88 millions de son amende pénale.
Et vous avez donc appris que 12 autres banques sont aussi en procédure de redressement fiscal et pour des montants bien supérieur.
Oui, selon nos informations, BNP Paribas est concerné par un redressement de 239 millions d'euros pour les années 2013-2015, un redressement qu'elle conteste devant le tribunal administratif. D'autres établissements ont des pénalités encore plus lourdes, la plus importante étant de 800 millions d'euros pour une seule année et une seule banque, dont on ignore le nom pour l'instant. Je précise que la plupart des établissements bancaires ont choisi de contester leurs redressements fiscaux.
Des banques qui contestent, mais ça va plus loin alors.
Visiblement, la Fédération bancaire française, la FBF, n'a pas hésité à contester au plus haut niveau le travail des agents du fisc. Écoutez l'agacement du chef du contrôle fiscal de Bercy, Frédéric Iannucci, lorsqu'il a été auditionné en décembre 2021 par la Commission des finances du Sénat.
Il y a une banque qui a accepté les redressements. En revanche, on est face à des situations de dénégation complète d'autres banques. C'est-à-dire que même face à des cas caricaturaux où on a des prêts de titres juste l'éveil de versement d'acompte et qu'on arrive à montrer sur des graphiques très parlants, on nous dit non, c'est pas pour des raisons fiscales. Et moi, je le dis aussi très sereinement, mais je n'apprécie pas du tout que la FBF intervienne auprès de nos ministres pour dire que nos vérificateurs font n'importe quoi.
Et les banques n'ont pas seulement critiqué les méthodes du fisc, mais les agents eux-mêmes. Selon nos informations, l'une d'entre elles est même allée jusqu'à demander au cabinet du ministre de l'économie si l'un de ses agents n'était pas, je cite, « un dangereux trotskiste », une façon d'attaquer le messager quand le message ne vous plaît pas.
Bien, on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va voir comment le lobby des banques a tout fait pour préserver la possibilité de pratiquer des koum-koum et comment un sénateur LR a réussi à leur tenir tête. Fundraiser, le dernier titre du trio anglais Bar Italia, extrait de leur prochain album Some Like It Hot, qui sortira le 17 octobre prochain.
France Inter. Révélation. Benoît Colomba.
Et retour à notre enquête sur ces milliards qui échappent à l'impôt en utilisant cette technique des koum-koum pour éviter de payer la taxe sur les dividendes. On a vu, Anne-Laure Barral, que des enquêtes pénales étaient en cours avec aussi d'importants redressements fiscaux contestés, on le précise, par la plupart des banques. Il y a également une bataille politique autour de ces koum-koum.
Oui, dès les révélations de nos confrères du Monde il y a 7 ans, le Parlement a cherché à légiférer pour mettre fin à cette pratique. Mais la Fédération bancaire française est intervenue très vite en alertant sur les risques qu'une nouvelle législation ferait courir au secteur bancaire, comme l'a rappelé Maya Attig, la directrice générale de la FBF, lors de son audition à l'Assemblée en juillet dernier.
En tant que fédération professionnelle, notre rôle dans ce dossier a été de coordonner l'analyse des points de droit soulevant des interrogations communes aux établissements. Mais notre rôle est de demander un cadre juridique clair pour l'ensemble des parties, publiques comme privées, afin que les activités de tenue de marché soient réalisées en France. Nous expliquerons l'utilité de ces activités qui permettent la liquidité des actions et sans lesquelles elles perdent une partie de leur valeur, ce qui est un problème pour notre économie.
Vous l'avez compris, pour la fédération professionnelle, ce serait contre-productif pour l'économie française d'imposer aux banques de nouvelles contraintes.
Et ce discours, est-ce qu'il fait mouche auprès des parlementaires ?
Eh bien, visiblement oui, parce que même si certains se sont emparés du sujet tout de suite, la majorité présidentielle très nombreuse à l'Assemblée nationale en 2018 va énormément amoindrir le dispositif anti-koum-koum envisagé au départ.
Mais c'était sans compter la persévérance d'un parlementaire en particulier.
Oui, quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment qualifier de dangereux trotskiste. C'est le rapporteur de la Commission des finances du Sénat, le sénateur républicain de Meurthe-et-Moselle, Jean-François Husson, qui va inlassablement évoquer les koum-koum à chaque projet de loi de finances jusqu'à cette intervention à la tribune du Sénat le 29 novembre 2024.
Vous avez bien compris, on ne pourra pas voter un budget de redressement des comptes publics à hauteur de 60 milliards d'euros sans lutter résolument contre certaines pratiques agressives de fraude fiscale. Je veux parler ici des montages d'arbitrage des dividendes, dits koum-koum, qui permettent d'échapper à la retenue à la source. On parle beaucoup de fraude, on parle de fraude sociale et de fraude fiscale. Nous devons nous battre sans relâche et sans merci. Il y a moins de monde pour la fraude fiscale, mais c'est plus dangereux, c'est plus pernicieux. Et je pense que notre Assemblée doit montrer l'exemple de sa volonté de combattre la fraude fiscale.
Merci.
Et pour combattre la fraude fiscale, le sénateur veut faire entrer la notion de bénéficiaire effectif dans la loi. Plus besoin de chercher pourquoi l'investisseur prête ses titres. S'il est étranger, il sera forcément taxé.
Sauf que cette réforme, la Fédération bancaire n'en veut pas.
Enfin, il dit que ce serait très dangereux pour la place financière de Paris. Et que sur les marchés, elle ne sait pas de qui elle emprunte les actions, que c'est anonyme. C'est ce que va défendre aussi le ministre du Budget de l'époque, Laurent Saint-Martin, en s'opposant à la proposition du sénateur LR.
Vous n'avez pas changé le fonctionnement des capitaux de marché avec ce vote. Bon, donc vous aurez la même problématique après ce vote. Si. Et vous aurez la même incapacité sur ces cas-là, par exemple, à ne pas connaître la contrepartie ou mettre en risque l'impossibilité de le faire.
Et finalement, alors, ce texte destiné à mieux encadrer cette pratique des koum-koum, il est adopté ou pas ?
Oui, à l'unanimité même. Mais lorsque paraît son texte d'application en avril, eh bien Bercy a laissé aux banques des exceptions.
Et Jean-François Husson, alors, comment il réagit ?
Eh bien, il est furieux. Il va même le 19 juin se rendre dans les locaux de Bercy pour demander des explications à ceux qui ont écrit ce texte d'application et contrôler leurs documents. Il donne dans la foulée une conférence de presse où, vous allez l'entendre, il ne mâche pas ses mots.
Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. En effet, d'une part, c'est le lobby bancaire lui-même, à travers la Fédération bancaire française, qui a demandé à Bercy de prévoir ces cas de non-application de l'impôt, alors que les banques elles-mêmes profitent de cette fraude, qui finalement protège la délinquance en col blanc. Car il s'agit bien de délinquants, même s'ils présentent bien. Des délinquants poursuivis en tant que tels par le parquet national financier.
Mais là, on a du mal à comprendre. Alors, comment des agents de Bercy ont pu détricoter un texte d'application de la loi ?
Alors, vous savez bien que le diable se glisse dans les détails de ce genre de texte. Pour Bercy, il apportait la sécurité juridique demandée par les banques. Et pour les parlementaires, eh bien, il était contraire à ce qu'ils avaient voté. Après plusieurs semaines de bataille politique, celui qui est alors ministre de l'économie, Éric Lombard, retire son texte. Et le 24 juillet dernier, au cœur de l'été, il justifie son revirement devant micro et caméra.
Nous avons aussi décidé de suivre cela dans le temps. D'abord sur l'aspect éviter la fraude, mais aussi vérifier que, à la suite de cette loi, le fonctionnement de la place de Paris continue à se dérouler sans difficulté. Et naturellement, si jamais une difficulté devait apparaître, eh bien, nous pourrions proposer des aménagements, mais ma conviction réellement, c'est que ça ne sera pas nécessaire, puisque là, nous avons un arsenal qui me paraît très convaincant.
Donc Éric Lombard a finalement reculé, mais pourquoi ça a pris 4 mois avant d'arriver à cette décision ?
Eh bien, le texte contesté est en effet resté en application entre le 17 avril et le 24 juillet. Et rappelez-vous, Benoît, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'année ? Eh bien, c'est justement la saison des dividendes pour les actionnaires des entreprises du CAC 40. Et donc, le jeu de bonneteau des Kumkum a pu se poursuivre une année de plus. Jean-François Husson l'a bien noté lui aussi. Aujourd'hui, il se dit que rien n'est gagné, même si son dispositif anti-Kumkum est enfin entré dans la loi.
Mais je vais rester extrêmement vigilant parce que je souhaite en tous les cas que les finances publiques puissent retrouver et récupérer le maximum de ce qui aurait pu ou dû venir dans les caisses de l'État. Et surtout, il faut s'assurer qu'il soit mis fin effectivement, définitivement à ces pratiques. Et je me dis, il y a toujours la volonté de trouver une nouvelle combine. J'ai déjà des éléments de réflexion qui vont nous inviter à poursuivre l'examen de ces sujets parce que, je le redis, je pense que c'est d'abord une question d'équité et de justice.
Et cette nouvelle combine que le sénateur évoque, on a une idée de ce que ça peut être ?
Alors, passer par des montages plus complexes, via des fonds basés au Luxembourg ou par des intermédiaires, notamment dans les 9 pays avec lesquels la France a une convention fiscale très favorable. En effet, les résidents du Qatar, par exemple, ou d'Arabie Saoudite ne payent aucune taxe sur les dividendes. Mais là encore, le gouvernement français avance que c'est compliqué de renégocier toutes ces conventions fiscales. Pour Riyad Selmani, chargé de plaidoyer au sein du CCFD Terre Solidaire, ce n'est qu'une question de volonté politique.
C'est une complexité d'une certaine manière qui est voulue. Il faut qu'on sorte d'un système qui est basé sur cette forêt de conventions fiscales bilatérales qui ne permet qu'une chose, les abus fiscaux. Et aujourd'hui, il y a des efforts, il y a des processus qui sont en cours, notamment un projet de convention fiscale à l'ONU qui veut remettre de l'ordre dans tout ça. Ça va être une bataille très difficile à récupérer cet argent. Mais surtout, l'urgence, c'est de couper le robinet et d'arrêter cette fraude.
Et pour l'instant, cette convention fiscale mondiale unique qui permettrait d'avoir une taxe commune dans tous les pays sur les dividendes reste très embryonnaire, l'Union européenne n'étant pas très favorable à cette idée.
Merci Anne-Laure Barral pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France. Et ne manquez pas également, pour tout comprendre à ce scandale, une vidéo en dessin animé un peu à la manière des Shadocks réalisée par Nicolas Devitte de la cellule d'investigation de Radio France. Et si vous avez des informations à nous communiquer, vous pouvez le faire à cette adresse sécurisée alerte.radiofrance.fr. Révélation, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Florian Dorimini. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de Révélation.